du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Millau, 106.5.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, Présence Midi, nous sommes en direct jusqu'à 13h. Bonjour à vous Androise Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Est-ce que vous avez remarqué qu'on a changé le système de chauffage?
Ah non, je n'avais pas remarqué.
Voilà. Il fait bon maintenant dans le studio.
Oui, bah moi j'ai mon petit gilet en laine, ouais, tout va bien.
Voilà, avec des températures hivernales qui s'annoncent cette semaine, vous avez bien fait.
Oui, mais cette saison, il faut arrêter de râler. Quand il fait trop chaud, on n'est pas content. Quand il fait froid, on n'est pas content. Bah voilà, écoutez, voilà. C'est l'automne, il fait froid et tant mieux.
Voilà, il suffit de mettre une veste en laine.
Exactement.
Après ces considérations mode, on va parler dans quelques instants de l'agenda du diocèse de Tarbes-Lourdes. Et on va parler de ce soir à la Maison Saint-Paul, une belle conférence en perspective.
Oui, pardon. Effectivement, pardon. Une belle conférence ce soir.
Voilà, une conférence qui sera donnée par Mgr Jacques Perrier sur le nouveau bienheureux Pascal Vergès en présence de Mgr Jean-Marc Mica.
Voilà, bah écoutez, faut pas me lancer dans un fou rire. Effectivement, ce soir, un rendez-vous très important pour découvrir qui est le bienheureux Pascal Vergès. C'est un prêtre de chez nous, de la Bigorre, des Hautes-Pyrénées. Donc, il est important de savoir, de connaître sa vie et de savoir pourquoi il est béatifié dans quelques jours.
Voilà une partie de l'agenda. Et puis, dans une deuxième partie de cette émission, un entretien spécial avec Elisabeth Lemire et Christine Sarri.
Nous allons parler des détenus, des personnes détenues dans les Hautes-Pyrénées, à Lannemezan et à Tarbes. Elles sont invitées, comme nous tous, à être pèlerins d'espérance. Comment ça se passe pour vivre un jubilé de l'espérance quand on est derrière les barreaux? Eh bien, nous dirons tout cela dans quelques minutes.
Et dans cette émission, nous irons également sur les chemins de Saint-Jacques avec un nouveau tracé. Nous parlerons de la section entre Azerex, qui se trouve pas loin de Tarbes, et Lourdes, avec Laurent de l'Office de Tourisme. Voilà. On vous retrouve dans un instant, j'espère, Androise Jankovic. Vous avez deux minutes. À tout de suite. Pour le moment, place à l'actualité régionale avec les titres à la une.
À Pau, dans les Hautes-Pyrénées, Gérard Trémège, maire LR de Tarbes, est jugé cette semaine pour prise illégale d'intérêt et irrégularité dans des marchés publics. À Toulouse, Caranx Médical, une société niçoise, a testé avec succès l'intelligence artificielle pour poser des valves cardiaques, une première mondiale. Vinci Autoroute ferme l'A64 et trois bretelles du périphérique toulousain de 21h à 6h du matin pour des travaux jusqu'à mercredi inclus. Le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises lance deux projets transfrontaliers en faveur du tourisme durable et de la protection du ciel nocturne, avec notamment 1,2 million d'euros d'argent européen. À Albi, la 29e édition du festival Les Œillades commence aujourd'hui avec 50 films et des ateliers cinéma jusqu'à dimanche. Charlotte Rampling, enfin, se produira samedi à Marcillac avec la violoncelliste Sonia Wider-Atherton pour un spectacle mêlant Shakespeare et Bach.
Merci Mathis Saint-Onac de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On vous retrouve à 12h30 pour développer ces titres dans le journal. Dans un instant, l'agenda du diocèse de Tarbes-Lourdes.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Radio Présence dans le Luchonnais, 94 FM.
Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. On sillonne tous les jours les diocèses et aujourd'hui on s'arrête à Tarbes avec Androse Jankovic qui n'est pas à Tarbes mais dans les studios de Lourdes. Rebonjour Androse.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Et on va parler d'un bel événement, c'est ce soir que ça va se passer à la Maison Saint-Paul, une conférence qui sera donnée par Monseigneur Jacques Perrier sur le nouveau bienheureux Pascal Vergès.
Et oui, pour la première fois, l'Église reconnaît bienheureux et martyr un prêtre de notre diocèse, du diocèse de Tarbes et Lourdes. C'est une grande joie, une grande nouvelle, alors c'est important pour les uns et les autres de découvrir un petit peu qui est bienheureux Pascal Vergès. C'est un prêtre du diocèse donc qui est né à Aucun dans les Hautes-Pyrénées et qui est mort en martyr en haine de la foi dans un camp de travail nazi. Il sera béatifié le 13 décembre prochain à Notre-Dame de Paris avec 49 de ses compagnons et ce soir à 18h30 en la maison Saint-Paul, Monseigneur Jacques Perrier donnera une conférence, voilà, première conférence pour découvrir donc la vie, le parcours et les derniers jours du bienheureux Pascal Vergès. Il y aura d'autres rendez-vous dans les mois à venir, mais ce premier rendez-vous donné est très important pour vraiment s'associer à la joie de toute l'Église d'accueillir ce bienheureux Pascal Vergès. Donc rendez-vous ce soir à 18h30 à la Maison Saint-Paul pour cette conférence qui sera tout à fait exceptionnelle. C'est une conférence qui sera enregistré pour Radio Présence, que vous pourrez retrouver ensuite en podcast sur le site de la radio. Mais c'est important d'y être parce que vous pourrez aussi poser vos questions à Monseigneur Perrier.
Voilà, c'est vraiment un grand événement pour le diocèse de Tarbes et Lourdes et puis une grande grâce aussi de découvrir en cette année jubilaire la figure de ce prêtre martyr.
Exactement, oui, parce que alors, comme je l'ai dit, hein, c'est la première fois que l'Église reconnaît un martyr et bienheureux pour le diocèse de Tarbes et Lourdes. La dernière personne béatifiée c'était Sainte Bernadette avant sa canonisation. Donc voilà, c'est nécessaire aussi de prier. C'est pour ça que vous trouvez dans toutes les paroisses du diocèse de Tarbes et Lourdes des cartes prières, puisque là, c'est une cause collective qui aboutit à la béatification de Pascal Vergès. Et ensuite, eh bien, pour aller jusqu'à la canonisation, il faut prier pour recevoir des grâces et une carte avec une prière vraiment particulière et spéciale pour à l'intention du bienheureux Pascal Vergès circule dans tout le diocèse de Tarbes et Lourdes déjà depuis plusieurs semaines. Donc venez à la conférence ce soir, priez bienheureux Pascal Vergès et rendons grâce tous ensemble pour cette belle nouvelle.
Voilà, on rappelle qu'il est né, vous l'avez dit, à Aucun, hein, c'est dans le sud du département.
C'est dans le Val d'Azun, exactement, c'est un petit peu après Argelès-Gazost.
Voilà, c'était en 1910 et on rappelle qu'il sera donc béatifié le 13 décembre prochain à Notre-Dame de Paris.
Vous êtes bien renseigné, mais venez quand même à la conférence ce soir, Gilles.
Ben, je suis déjà inscrit. On poursuit cet agenda avec la dédicace de la cathédrale, c'est ce jeudi.
Oui, alors la dédicace d'une cathédrale, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est un moment solennel où l'évêque consacre l'édifice au service du culte. Ça implique la bénédiction de l'église ou de la cathédrale, la dédicace de l'autel et puis la célébration d'une eucharistie solennelle. C'est un rite qui remonte au IVe siècle et qui a été renouvelé par le concile Vatican II en 1977. La dédicace, c'est un acte liturgique qui confère à l'édifice sa destination et définit sa nature en attribuant à l'usage spirituel et sacré. La pose de la première pierre marque le début de la construction d'une église ou d'une cathédrale, mais la dédicace, c'est vraiment une célébration solennelle durant laquelle, au milieu de l'église rassemblée, l'évêque consacre vraiment le bâtiment et son autel pour l'usage du culte. Alors, chaque année, la date anniversaire de la dédicace est commémorée avec des prières et des lectures spécifiques. C'est vraiment une occasion de fête pour toute l'église diocésaine et donc pour la cathédrale d'un diocèse. C'est vraiment le jour anniversaire de la dédicace, non seulement une solennité pour la paroisse qui est présente dans la cathédrale, mais également pour tout le diocèse et pour toutes les communautés chrétiennes du diocèse. Ce jeudi 20 décembre, c'est donc la commémoration de la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes. C'est à 18h30. La messe sera présidée par notre évêque, Monseigneur Jean-Marc Mika. Donc c'est important d'y être pour s'associer donc à cette commémoration de la dédicace de Notre-Dame.
Autre événement pour le diocèse de Tarbes et Lourdes, ce sont les franciscains du Bronx. qui seront là ce week-end.
Exactement, ils viennent en mission dans notre diocèse de Tarbes et Lourdes. Ils rencontreront d'abord les jeunes de l'aumônerie, des lycéens, des étudiants et des jeunes professionnels, vendredi soir à la Maison Saint-Paul, aumônerie des jeunes, une grande mission. Donc ils partageront leur vie, hein. Vous savez que les franciscains du Bronx, ils sont présents dans des quartiers pauvres et ils vivent là au milieu des populations les plus défavorisées. Ils témoigneront de cela auprès des jeunes. Ils parleront de la mission et de la vocation avec les jeunes. Le rendez-vous est donné pour les lycéens, les étudiants, les jeunes professionnels à la Maison Saint-Paul de 19h45 à 21h ce vendredi. Et puis ensuite, samedi et dimanche, ils seront en mission paroissiale et diocésaine à Lannemezan tout le week-end avec un programme bien, bien chargé. Il y aura des enseignements, plusieurs enseignements, des temps de confession, une prière communautaire et puis aussi une veillée, mais également une démarche de guérison et puis une démarche missionnaire pour annoncer le Christ dans les rues de Lannemezan. Alors ça se passe à Lannemezan, mais c'est vraiment une proposition ouverte à toutes les personnes du diocèse qui veulent s'associer donc à ce week-end. C'est vraiment une mission paroissiale et diocésaine avec les franciscains du Bronx. C'est pour les adultes, les enfants, les jeunes, les catéchumènes, les familles, pour tout le monde. Toutes les informations sont sur l'application Au Clocher, sur le site du diocèse et également auprès de la paroisse de Lannemezan.
Les soirées Louange Horizon se poursuivent dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Prochaine date, bien ce samedi.
Exactement, c'est une veillée de prière qui est proposée chaque mois en l'église Saint-Vincent de Paul à Tarbes. La prochaine est ce samedi 22 novembre à partir de 20h30. Donc en cette église Saint-Vincent de Paul, c'est dans le quartier de Laubadère.
C'est pas ce week-end, mais le week-end prochain, le pèlerinage des agriculteurs va se dérouler au sanctuaire de Lourdes.
Oui, les 29 et 30 novembre prochains, des centaines d'agriculteurs venus de toute la France se rassembleront au sanctuaire de Lourdes pour le pèlerinage national des agriculteurs. C'est la deuxième édition, c'est vraiment un événement spirituel, mais aussi fraternel, qui est vraiment l'occasion pour les agriculteurs et toute leur famille de partager leur réalité, leur espérance, leur foi, dans un contexte où on le sait bien, un contexte agricole qui est vraiment marqué par des crises, mais aussi par des transitions, notamment la transition écologique. Tout ça est au cœur de ce pèlerinage national des agriculteurs. Ils se rassembleront cette année autour de ce thème, avec Marie, témoigner de l'espérance au cœur des réalités du monde agricole. Il y a un programme là encore pour le samedi 29 et le dimanche 30 bien, bien chargé, avec des tables rondes, des témoignages, bien sûr les démarches jubilaires, les démarches de pèlerinage habituelles du sanctuaire, des temps de rencontre, des temps d'échange. L'objectif, eh bien, c'est pour les agriculteurs de se retrouver, mais c'est aussi pour le grand public d'aller à la rencontre des agriculteurs. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du sanctuaire de Lourdes, vous pourrez y trouver le programme détaillé. Venez à la rencontre des agriculteurs, c'est le moment de leur poser toutes les questions et de prier avec eux. Donc 29 et 30 novembre prochain au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, pèlerinage national des agriculteurs à ne pas manquer.
À ne pas manquer, on aura l'occasion d'en reparler largement sur les antennes de Radio Présence.
Oui, puisque nous aurons même une émission spéciale avec quelques-uns des participants, des agriculteurs participants à ce pèlerinage national.
Voilà, je crois que ça sera le vendredi à midi, si je ne me trompe pas.
Vendredi 28 novembre à midi, exactement.
Voilà pour l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. Je crois qu'il y a le bulletin du diocèse qui est en cours de préparation. S'il y a des auditeurs qui organisent un événement, il ne faut pas hésiter à vous communiquer.
Ah oui, mais il est grand, grand temps. Effectivement, ce bulletin...
Il reste quelques heures. Quoi.
Il reste quelques heures. Voilà. Ce bulletin sera distribué dans toutes les paroisses du diocèse de Tarbes et Lourdes au début du mois de décembre. Vous y trouverez beaucoup de choses. Nous parlerons notamment de l'opération des crèches de Noël, mais il y a beaucoup aussi d'informations sur le Père Pascal Vergès, le futur bienheureux dont je parlais il y a quelques minutes. Voilà, l'agenda, enfin, un tas de nouvelles, mais effectivement, n'hésitez pas à envoyer vos informations au service diocésain de la communication pour que ensuite ces informations soient relayées à la radio, sur Au Clocher, dans le bulletin, c'est important. Et puisque j'y suis et que vous laissez mon micro ouvert, Gilles, j'en profite pour dire que notre petite annonce concernant la chaîne YouTube du diocèse,
vous avez la question.
Bigorre TV a bien marché, il y a 997 abonnés.
Très bien.
Donc voilà.
Donc il en reste 3.
Il en reste 3 et je rappelle que le millième aura une surprise.
Un cadeau.
Un petit cadeau.
Un petit cadeau. Ok, une veste.
pas du tout. Une expérience peut-être multimédia, peut-être voir les coulisses de nos émissions, à la fois de Bigorre TV et de Radio Présence, pourquoi pas. Voilà. Un petit quelque chose comme ça. En tous les cas, voilà, dans trois abonnés, une surprise. Mais ça veut dire qu'après, on peut continuer encore à s'abonner.
Bien sûr.
Évidemment.
Allez, un grand merci à Anne-Rose Jankovic. Voilà, je rappelle qu'avec vous, on a donc évoqué l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. Merci.
Présence.
Et Anne-Rose, vous restez avec nous puisque dans 3 minutes, on va parler d'un autre sujet. On va parler du jubilé pour les prisonniers.
Exactement. Vous savez que nous vivons le jubilé de l'espérance, mais est-ce que vous savez que les prisonniers aussi, les personnes détenues, sont invitées à vivre aussi leur jubilé de l'espérance? Alors, comment ça se passe quand on est en prison? Comment peut-on vivre un jubilé de l'espérance quand on est en prison? Eh bien, mes deux invités vont tout nous dire dans quelques instants.
Voilà. Et puis, à 12h30, eh bien, on retrouvera le journal régional. Pour le moment, c'est une pause en musique avec le chanteur que vous appréciez. C'est Vianney.
Ah oui.
À tout
bien
de suite.
Vu. Merci.
De suite.
Les gens qu'on ne regarde pas sont des trésors oubliés. Il y avait tant de choses en toi et peu de gens pour les aimer. Moi, je garde nos images que je regarde souvent. Avant de tourner la page, faut le vouloir finalement. Et demain, je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi, je ne voyais rien. Les gens qu'on ne regarde pas sont des livres jamais lus. Moi j'ai vu au fond de toi un vieux roman qui m'a plu. T'étais pas parfait peut-être, mais tout est à l'imparfait maintenant. Tu es de ceux qu'on regrette, parfois génial, parfois gênant. Et demain, je referai le chemin, mais pas juste à
C'était le chanteur Vianney qui nous accompagnait à la mi-journée. Bon appétit à vous qui nous écoutez dans notre région Occitanie et dans le Béarn. La suite de cette émission, c'est avec Anne-Rose Jankovic et ses invités.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Allez, aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un univers un peu particulier, l'univers carcéral, et nous allons en parler avec mes deux invités, Christine Sarry et Elisabeth Lemierre. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour, Anne-Rose.
Christine Sarry, vous êtes aumônier catholique de la maison d'arrêt de Tarbes. Elisabeth Lemierre, vous êtes aumônier catholique du centre pénitentiaire de Lannemezan. Vous allez nous parler l'une et l'autre de votre mission, et puis vous allez nous parler du jubilé de l'espérance, puisqu'on va apprendre avec vous que les personnes détenues, elles aussi, peuvent vivre leur jubilé, le jubilé de l'espérance. Et voilà, vous allez nous expliquer comment ça se passe quand on est derrière les barreaux. D'abord, pour commencer, on va se pencher un petit peu sur vos lieux de mission, puisque vous, Christine Sarry, donc vous intervenez à la maison d'arrêt de Tarbes. Elisabeth Lemierre, vous intervenez au centre pénitentiaire de Lannemezan. Ce sont deux lieux différents, avec des réalités qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se vit dans l'un et l'autre de ces lieux ? Christine.
Alors moi je dirais la maison d'arrêt, c'est d'abord le premier lieu de détention. C'est là où une personne est jugée. Quand elle est jugée, elle passe par la maison d'arrêt. Elle va vivre ce temps après sa garde à vue. Et puis une fois qu'elle est jugée, alors il y a trois possibilités. Une première fois, elle est jugée et sa peine ne va pas excéder 2 ans, voilà. Ou bien, elle peut être mise en incarcération et elle a été jugée puis elle fait appel, voilà. Donc elle va et la personne peut être en préventive. Donc voilà, c'est un temps et il faut savoir que ce lieu-là, on a une surpopulation énorme, voilà, parce qu'on arrive, on condamne une personne et directement, on va la mettre en maison d'arrêt.
Donc c'est un lieu de passage, d'attente, mais qui peut être assez long.
Très long.
Et c'est différent très pour chaque personne.
C'est différent pour chaque personne. Et voilà, chaque personne ça peut prendre du temps.
Il y a combien vous parlez de la surpopulation carcérale, et à la maison d'arrêt de Table, il y a combien de personnes?
Alors, 148. Actuellement, les détenus disaient qu'ils étaient à peu près 148. Ils sont 3 par cellule, 9 mètres carrés. Ils sont 3 par cellule.
Voilà, alors qu'il devrait être voire deux personnes maxi. Deux personnes. Voilà. Elisabeth Lemire, à Lannemezan, c'est une autre réalité.
Oui, tout à fait. Lannemezan, c'est un centre pénitentiaire. On dit souvent dans le diocèse la centrale, oui, parce que les trois quarts de l'établissement sont réservés à des personnes qui ont été jugées et qui ont eu une longue peine. Longue peine, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans.
Ah oui, une grosse partie de leur vie.
Une grosse partie de la vie. Donc ça veut dire que dans une centrale, la vie est organisée. La vie est organisée.
Contrairement à une maison d'arrêt où les gens sont là.
Où normalement ils ne sont que de passage, même si, comme vient de le dire Christine, le passage peut dire à la louche maxi 5 ans. Voilà. Tandis qu'à Lannemezan, ce n'est pas le cas. Mais à Lannemezan, il y a aussi des personnes détenues qui sont là pour des peines plus courtes, mais qui, pour des raisons notamment sécuritaires, font plusieurs établissements pour vivre leur peine. Donc, peuvent être là pour moins qu'une peine longue, c'est-à-dire 3 ans, 4 ans, parce qu'au bout des 3 ans, 4 ans, ils partiront dans un autre établissement, puis dans un autre établissement. Et puis enfin, il y a quelques cellules pour des personnes qui sont en fin de peine et qui sont là pour notamment par rapport à une activité autour des espaces verts. Donc il y a quelques personnes qui sont là vraiment en fin de peine pour vivre les dernières années avec après ce projet d'insertion.
Okay, c'est pour ça pour donner une perspective quoi pour la vie après.
Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit nous la centrale, mais en fait ça s'appelle centre pénitentiaire parce qu'il y a deux entités, l'entité centrale et l'entité maison pour des peines moins longues puisque c'est l'aménagement en vue de la réinsertion. Mais c'est vraiment petit. Hein.
Au sein de ces deux réalités, quelles sont vos missions enfin concrètement vous avec les bénévoles qui vous entourent hein, puisque vous avez l'une et l'autre chacune une équipe, concrètement vous faites quoi en fait? Quelle est la mission d'un aumônier de prison, Christine?
Alors moi je dirais c'est d'abord accueillir, marcher avec les détenus, arriver, les écouter. Voilà, je prendrai on me le prend dans l'église, hein, mais je prendrai le disciple d'Emmaüs. Jésus qui arrive.
Vous faites compagnon de ces personnes
détenues. On se fait compagnon. Moi, je dis, voilà. On marche, voilà. On fait route avec eux, on les écoute. On arrive, et c'est le Christ qui rentre en prison. Le Christ rentre en prison et il nous dit, mais c'est, voilà.
Ce sont les détenus qui vous disent, j'ai besoin de vous. Je veux vous parler, j'ai besoin de votre écoute, de votre attention.
Alors, on reçoit une boîte aux lettres et on a les demandes. Alors des fois, ça peut arriver d'un surveillant nous disant, écoutez, cette personne-là, est-ce que vous pouvez la rencontrer? Mais on est obligé d'avoir, hein, à cause du prosélytisme, etc., d'avoir un document écrit de la part du détenu pour nous dire, ben voilà, j'aimerais vous rencontrer. Avoir cette liberté. Alors, il y a des gamins, des personnes qui vont nous dire, ben moi, j'aimerais vous rencontrer, et qu'au bout de quelques temps, vont nous dire, je te laisse.
Et quand vous commencez, vous rencontrez la personne une première fois, après, c'est un rythme qui est établi avec vous en fonction de ses besoins, de son envie de parler.
Son envie.
Donc ça peut être toutes les semaines?
Toutes les semaines. Alors certains vont nous appeler en disant, des fois il y en a certains, bon, ceux qui viennent à la messe le dimanche, ils nous disent, je veux venir à la messe ou je veux vous rencontrer au parloir. Et puis la semaine suivante, quand on les appelle, il y a la promenade, il y a le médecin, ou ils n'ont pas envie, ou ils ne se sont pas levés. Et ils nous disent non.
Donc que ce soit à la maison d'arrêt de Tarbes ou au centre pénitentiaire de Lannemezan, chaque semaine il y a des bénévoles oui. comme vous qui partent à la rencontre des détenus oui. Pour échanger avec eux. Oui. Et chaque semaine aussi, il y a la possibilité pour eux de vivre la messe au sein de la prison.
Au sein de la prison.
Alors oui, là il y a aussi une différence entre Tarbes et Lannemezan, oui. c'est que à Tarbes, les aumôniers rencontrent les personnes détenues dans un lieu dédié, notamment à cause de la surpopulation. Pour avoir un vrai échange individuel avec la personne. Si nous allions en cellule à Tarbes, on aurait un échange avec deux ou trois personnes en même temps. Donc, c'est pas le même niveau de rencontre et de ce qui est pas, le partage n'est pas le même. À Lannemezan, les personnes détenues sont une par cellule. Mmh. Donc, moi, je vais en cellule les rencontrer. D'accord. Donc ça change un peu, mais ça n'empêche que ils me disent à la messe à Lannemezan la messe est que tous les 15 jours parce qu'il y a deux bâtiments et ils ne peuvent pas se rencontrer d'un bâtiment à l'autre. Donc il y a une alternance, mais ils me disent tu viendras me voir. Mmh. Donc du coup j'y vais. Et puis
ils vous tutoient.
Oui, beaucoup. Un certain nombre, oui. Mais moi, j'en tutoie aussi quelques-uns en disant, ça ne me remet rien en question sur le respect que nous avons les uns pour les autres. Donc, voilà.
Ils le sentent, ça. Enfin, ils vous respectent, vous les respectez, ils sentent que vous les respectez.
Ouais, bien oui, sûr. Bien sûr. Bien sûr.
Mais quel regard vous portez sur ces personnes ? Alors d'abord, il faut dire quand même que peut-être les auditeurs qui nous écoutent se disent mais quelle énergie déployée, quel temps passé pour des personnes qui, a priori, ont fait du mal autour d'eux, ont fait du mal à leurs prochains. Et vous, eh bien, vous êtes là, vous donnez de votre temps, vous avez avec vous des bénévoles qui donnent de leur temps aussi, de leur énergie, pour écouter des personnes qui ont fait du mal. Elisabeth ?
C'est une exigence évangélique. Matthieu 25, j'étais en prison et vous êtes venu me visiter. C'est une exigence évangélique. Alors évidemment, tout le monde n'est pas prêt à aller en prison et notre évêque appelle les uns les autres et nous en équipe nous appelons les uns les autres en fonction des aptitudes, des charismes, de ce que nous pouvons imaginer, mais de ce qu'est l'autre et de ce qu'il va peut-être pouvoir apporter en prison. Mais n'empêche que, voilà, ça, ce qui nous habite, c'est ça. Ce qui nous habite, c'est de savoir que le Seigneur sait que nous sommes plus grands que ce que nous faisons.
Mais c'est vraiment le regard que vous arrivez à porter sur ces
bien
personnes
sûr,
détenues.
Sinon, nous ne pourrions pas franchir les portes. Mais heureusement aussi pour moi, le Seigneur sait que je suis plus grande que ce que je fais de pas très bien certains jours. Alors évidemment, c'est pas la même échelle. Mais n'empêche que l'amour de Dieu pour chacun, c'est celui-là, c'est celui de Dieu qui nous aime au-delà de ce que nous avons fait, qui ne bénit pas ce que nous avons fait de mal, très mal, de grave, de très grave, voire de criminel, bien évidemment que non, mais n'empêche qu'il sait que nous sommes capables d'autre chose aussi.
Et eux le savent, eux savent que eh bien, Dieu a pour eux cet amour plein de miséricorde et que vous en êtes un peu les messagers, ils en ont conscience de ça ou ils cherchent ça. Pourquoi ils vous appellent au fond?
Mais je crois oui, je crois
au-delà du temps que... de parole.
Oui. Effectivement les gars, c'est vrai qu'on va le répéter ce côté qu'ils sont plus comme Elisabeth dit, ils sont plus grands, voilà, que leur acte, voilà, c'est ils nous disent mais voilà j'ai fait ça etc j'ai blessé etc mais leur dire ben oui tu es plus grand que ta faute et que le Seigneur t'aime et la miséricorde voilà c'est insister en disant tu dois voilà tu es aimé de Dieu voilà tu es aimé tu alors souvent ben mercredi dernier on reparlait du fils prodigue mm-hmm. en disant voilà voilà, Dieu t'attend les bras ouverts. Tu es là. Voilà. Et moi, c'est une chose où je parlerai un petit peu. Le péché, oui, le péché les a détruits. C'est un peu comme ça me faisait penser au Seigneur des Anneaux. Quand on regarde, on dit que les orques sont des elfes et qui ont été détruits par le mal. Voilà. Mais voilà. Ce qui était détruit, mais on trouve des personnes Alors c'est vrai que la presse va le donner une image un peu noire, etc. Mais on rencontre des hommes comme vous, voilà, comme chacun de nous.
Vous arrivez à percevoir ce qu'il y a de beau et de bon en eux.
Ah oui, oui, moi je, oui. Et leur faire montrer, oui, qu'il y a quelque chose, voilà. Alors ça ne veut pas dire, voilà, pendant le temps, alors peut-être qu'ils rechuteront, voilà. Mais on sait que pour eux, et leur dire, oui, tu es capable, tu as quelque chose de bon.
Dans ce face-à-face avec les personnes détenues, est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur ou de vous dire, mais qu'est-ce que je fais là face à quelqu'un qui a peut-être commis un crime, qui peut peut-être tout d'un coup sortir de ses gonds parce que le mal que vous évoquez ressurgit. Est-ce que vous avez peur parfois face à eux?
Moi, jusqu'à présent, j'ai jamais eu peur.
Je pense que si on a peur de rencontrer des personnes détenues, on n'accepte pas une mission en aumônerie. Ça, c'est la première des choses.
Si vous n'y allez pas, vous comme boxe, bah, Elisabeth. Voilà.
Donc, je veux dire, ça, c'est très important. Si on a peur, on n'y va pas. Bon. Ensuite, évidemment que notre sécurité est assurée, notamment par le cadre pénitentiaire. Et ça, souvent, les surveillants nous le rappellent. Et c'est leur mission, et ils la vivent, c'est leur travail, et ils sont très pros.
Ouais.
Bon. Mais en plus... moi, je sais très bien que je ne risque rien. Une personne détenue, peut-être il y a des personnes détenues qui vont nous entendre d'ailleurs durant cette émission.
Ils écoutent Radio Présence, certains.
Il y en a quelques-uns qui l'écoutent, donc je pense notamment à Tarbes, à quelques-uns qui sont capables de l'entendre.
Alors on les salue très fraternellement.
Je sais que je ne risque rien. Je sais que de fait on ne risque rien. Alors après, il faut aussi se dire que sont incarcérés aussi des gens qui parfois sont des gens qui ont des atteintes psychiques,
ouais,
psychiatriques,
ouais,
et que ça, il faut aussi savoir le prendre en compte et le mesurer.
Donc vous êtes formé à ça.
On a des petits bouts de formation, et puis on a la formation sur le terrain. Et moi, je sais que, bah, il y a des fois où je ne parle pas de la même manière à une personne ou à une autre, que je ne pose pas quelqu'un qui a vraiment de gros troubles psychiques. Si on prie ensemble et que je le propose de le bénir, par exemple, et de lui faire un signe de croix sur le front, je lui dis d'abord, si vous êtes d'accord ou si tu es d'accord, je peux te dire un mot de bénédiction de la part du Seigneur et te faire un signe de croix sur le front. Mais voilà, donc ça, c'est un petit peu des petits éléments de formation que nous avons, que nous acquérons en fonction des années. Mais non, bien sûr que nous n'avons pas peur. Sinon, nous n'irions pas. Ça, c'est clair.
On marque une petite pause et puis on vous retrouve dans un instant, Christine Sarri et Elisabeth Lemierre. On a parlé de miséricorde et on va voir que les personnes détenues ont droit aussi à leur dose d'espérance. C'est l'année du jubilé, on en parle dans un instant.
Yann-Rose Jankovic, on marque cette pause avec le journal régional. Le journal est présenté aujourd'hui par Mathis Saint-Tenac de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Bonjour à toutes et à tous. À Pau, dans les Hautes-Pyrénées, Gérard Trémège, 81 ans et maire LR de Tarbes, comparaît cette semaine devant la justice pour prise illégale d'intérêts et irrégularités dans des marchés publics. Mis en examen en 2015, il est jugé avec 8 autres prévenus. La mairie et la Confédération Générale du Travail se portent partie civile. Le maire, de son côté, dénonce un complot politique et annonce ne pas se représenter aux municipales 2026. Hier à Toulouse, la société niçoise Carenx Medical a testé avec succès l'intelligence artificielle pour poser des valves cardiaques, une première mondiale. Le principe, un logiciel guide un robot et l'équipe médicale pendant l'intervention. 10 patients ont participé à l'étude à la clinique Pasteur. Une généralisation de l'innovation est prévue dans les prochains mois. À Toulouse, Vinci Autoroute ferme l'A64 et 3 bretelles du périphérique pour des travaux nocturnes. Les portions concernées seront inaccessibles de 21h à 6h du matin. Une première nuit de perturbation a déjà eu lieu hier soir. Les travaux concernent le remplacement de panneaux décoratifs entre le périphérique et porté sur Garonne. Des déviations sont mises en place pour les automobilistes. La situation devrait durer jusqu'à mercredi inclus. Le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises annonce la sélection de 2 projets transfrontaliers par le programme Interreg POCTEFA. Les projets PP3N pour développer le tourisme durable et Pyrénètes pour protéger le ciel nocturne viennent renforcer la coopération entre Ariège, Catalogne et Andorre. 1,2 million d'euros d'investissements européens viendront abonder ces projets. Dans le Tarn, à partir d'aujourd'hui, la 29e édition du festival Les Œillades d'Albi attirera cinéphiles et professionnels du grand écran. 50 films, dont 30 avant-premières, seront projetés. Une quarantaine d'invités animeront également des ateliers autour de l'art et du cinéma. Le festival se prolongera jusqu'à dimanche. Charlotte Rampling, enfin, se produira à Marcillac, dans le Gers, ce samedi à 21h sur la scène de l'Astrada. Aux côtés de la violoncelliste Sonia Wider-Atherton, les deux femmes proposeront un spectacle qui mêle sonnets de Shakespeare et musique de Bach. Pour y assister, il faudra réserver vos places sur le site internet de l'Astrada. Les tarifs des billets varient entre 15 et 35 euros.
Voilà pour l'actualité régionale. Merci à Mathis Saint-Onac de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Prochain point sur l'info, c'est dès 13h avec le journal national et international. Pour cela, bien, nous serons en liaison avec Rome pour joindre la rédaction française de Radio Vatican. Auparavant, eh bien, on ira sur les chemins de Saint-Jacques avec Laurent de l'Office de tourisme qui nous parlera d'un nouveau chemin entre Azerex et Lourdes. Ça se trouve dans les Hautes-Pyrénées. Azerex, c'est pas très loin de Tarbes. Mais pour le moment, on retrouve Anne-Rose Jankovic, toujours en studio avec ses invités.
Radio Présence à Luchon, 94 FM.
Nous poursuivons cette émission tout à fait particulière en compagnie de Christine Sarri et Elisabeth Lemierre. Alors l'une et l'autre, vous êtes en mission auprès de personnes détenues à la maison d'arrêt de Tarbes pour vous, Christine Sarri, et puis au centre pénitentiaire de Lannemezan pour vous, Elisabeth Lemierre. Nous avons parlé de votre mission en première partie. Vous nous avez parlé de miséricorde aussi. On a bien senti l'importance de ce regard plein de miséricorde que vous portez sur les personnes détenues. On va parler d'espérance, puisque ça ne vous a pas échappé. En cette année jubilaire, eh bien, nous sommes tous invités à nous faire pèlerins d'espérance. Et les détenus aussi ont leur jubilé, sont invités à entrer dans l'espérance. Pardon. Alors ça peut paraître un petit peu ubuesque, d'abord parce que bien sûr, par définition, les personnes détenues ne peuvent pas se rendre à Rome. Honnêtement, on a du mal à s'imaginer comment des personnes détenues, derrière les barreaux, peuvent trouver de l'espérance ou peuvent se permettre d'espérer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment un jubilé de l'espérance peut se vivre pour des personnes détenues ?
Oui. Avant de parler de l'espérance des personnes détenues, je voudrais juste parler aussi des victimes. Voilà. Parce que quand on parle de ce que nous vivons avec les personnes détenues, il ne faut pas oublier que derrière, il y a des victimes et que ce n'est jamais relativiser les actes et jamais oublier les victimes. Je dis ça parce qu'il y a peut-être aussi des victimes qui écoutent cette émission.
Oui, vous avez raison de le dire.
Il ne faut pas rajouter de la souffrance à la souffrance.
D'ailleurs, le regard plein de miséricorde dont on parle, ça n'est pas un regard qui efface le mal qu'ils ont fait.
Bien sûr que non. Et que si on avait été envoyé auprès des victimes, bien sûr qu'on accompagnerait les victimes.
Oui.
Mais on a été envoyé auprès des
victimes. Et d'autres personnes sont envoyées auprès des victimes.
Ça, c'est très important.
Oui, vous avez raison.
Parce que nous, on témoigne avec enthousiasme de cette mission qu'on aime. Mais il ne faut pas relativiser ni les actes ni les victimes. OK ? Voilà. Donc oui, le jubilé de l'espérance. Oui, le jubilé de l'espérance est aussi pour les personnes détenues. Le pape François, qui a lancé ce jubilé de l'espérance, est allé ouvrir une porte dans la prison, dans une des prisons de Rome. Donc ça, c'est pas rien. Donc nous nous sommes dit, comment on va vivre ça? Alors notre monnerie nationale a réalisé un livret avec des pistes, etc. Et nous avons repris la question de la piste de la porte. Et nous nous sommes dit que nous allions faire fabriquer une porte qui serait
très symbolique.
Très symbolique en prison, parce que les personnes détenues, quand on leur a parlé, on dit, ah bah oui, comme si on n'avait pas déjà assez ici des portes. Sauf qu'ils ont dit celle-ci.
Vous n'êtes pas obligé d'y mettre des barreaux à celle-ci.
Non, mais eux veulent en dessiner. Mais bon, parce que ça a du sens pour eux.
Ouais.
Mais ils disent celle-ci, nous pourrons la franchir nous-mêmes sans que personne n'ait la clé pour l'ouvrir. Et celle-ci, nous la franchirons ensemble. Voilà.
C'est beau.
Ça, c'est énorme. Alors donc, voilà, donc nous sommes sur le symbole de la porte qui sera le cœur de la célébration que nous allons proposer à notre évêque. On l'a bâti les deux équipes ensemble l'autre jour. Voilà. Et c'est une grande question. L'espérance. L'espérance pour une personne détenue, c'est l'attente de la sortie. C'est espérer un monde meilleur que celui de la prison. Pour certains, c'est aussi le ciel, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas imaginer que quand on a commis des actes qui peuvent être très graves, là je parle aussi de l'Anne-Mezan, mais à Tarbes on accueille aussi des gens qui vont finir dans une centrale, hein, donc voilà, et ben quand même ce qu'on a commis, on l'a dans le cœur.
Et est-ce que l'espérance peut être aussi pour eux, du coup, l'espérance d'une réparation du mal qu'ils ont fait, ou du moins d'une demande, d'une démarche de réparation ?
Bien sûr. Et nous, on a essayé de réfléchir à cette question-là dans la célébration que nous avons bâtie ensemble, sur un avant et un après, avec le passage de la porte entre les deux. Quelle démarche pénitentielle aussi. Certains disent « je veux recevoir le pardon de Dieu ». Alors, il ne faut pas croire que c'est une démarche facile. Hein. Peut-être quand on est loin du domaine de la prison, on peut se dire « ah ben, c'est bien facile de demander pardon à Dieu quand on a tué quelqu'un ». Voilà, il suffit de le dire au prêtre et puis c'est bon. Non, pas du tout. Hein. Les victimes portent le poids de la souffrance toute leur vie, mais les auteurs aussi, même s'ils ont déjà payé et vécu leur peine, ils le portent toujours aussi dans leur tête et dans leur cœur. Et moi, j'ai envie de dire un petit peu aussi, heureusement, d'accord. Mais il y a quand même un après peine, un après détention.
L'espérance, c'est ça. Elle se niche ici.
C'est ça. L'espérance, c'est se dire, il y a quand même un avenir qui s'ouvre. Et déjà, qui commence en prison. Parce qu'en prison, comment j'essaye d'être debout ? Où je vais trouver de la vie ? Parfois, nous disons aux personnes détenues, qu'est-ce qu'on peut pour vous ? Ou qu'est-ce qui peut vous aider ? Ou qu'est-ce que... Voilà. Et ça... Et aussi au nom de notre foi.
Alors concrètement, ce passage de la porte, donc il y aura une porte à l'Anne-Mezan, une porte à Tarbes, et dans chacun des lieux, eh bien, les détenus qui le voudront pourront franchir cette porte. Il y a un jour fixe. Alors à Rome, le jubilé des détenus, alors bien sûr, ils vont pas y aller, mais des personnes vont les représenter. C'est mi-décembre, hein, je crois, oui. 14 décembre, oui. C'est ça. Et alors ici, dans les Hautes-Pyrénées, à Tarbes et à l'Anne-Mezan, c'est quand, c'est comment ?
Alors nous autres, ce sera le 6 et le 7 décembre, puisque notre évêque sera à Paris pour la béatification de Pascal Vergès.
Ah oui ?
Voilà, donc on a avancé un tout petit peu par rapport au national et mondial. Hein.
Pour que Monseigneur voilà. Mika soit présent à chaque...
Oui. Enfin... Il nous a demandé, il a vu Elisabeth, puis il a même appelé en me disant, voilà, est-ce que vous pouvez avancer ? Donc on a accepté. Voilà. Donc,
ce sera un jour de fête. Bon. Donc le samedi à l'Anne-Mezan et le dimanche à Tarbes. Donc les auditeurs qui le veulent peuvent s'associer par la prière hein, à cette démarche. Donc ils vont franchir la porte, vous allez leur proposer, s'ils le souhaitent, le sacrement de la réconciliation. Et puis c'est quand même vous allez marquer quand même ce jour-là.
Alors on va marquer un petit, parce qu'après nous autres on a Noël, donc il y a Noël qui est quelques semaines après, donc où on fête la naissance, voilà.
Et bah, c'est une bonne entrée en matière en plus au début du temps de l'Avent de franchir cette porte de l'espérance. Oui. Vous évoquez Noël, merci pour la transition, Christine, puisque effectivement comme chaque année, vous mettez tous les ans un petit bout d'espérance quand même dans le cœur de ces personnes détenues, puisque chaque année, grâce à votre mobilisation, ils peuvent recevoir un colis. Alors c'est le moment, pour les minutes qui nous restent dans cette émission, de parler de l'opération des colis de Noël. Voilà, des colis qui sont vraiment porteurs d'espérance, et cette année, ils auront une signification encore plus forte. Comment ça se passe ? Vous pouvez nous faire une petite piqûre de rappel, Elisabeth Lemire ?
Alors, les colis de Noël, c'est une grande aventure qui existe depuis très très longtemps dans ce diocèse, qui n'existe pas partout. La spécificité du diocèse, c'est que ils ne sont possibles que grâce à la générosité d'un certain nombre de personnes de notre diocèse. Et puis la spécificité, c'est aussi que un colis, un détenu. C'est-à-dire que toutes les personnes détenues de Tarbes et de Lannemezan ont leur colis, qui est le même, mais toutes celles que nous voyons à l'aumônerie, mais aussi les autres,
ah oui.
Et aussi ceux qui sont
d'autres. Donc ça, c'est pas sur commande ou sur demande, c'est tout le monde.
Ah, tout le monde.
Y compris, pardon, je vous ai coupé, mais y compris des personnes qui sont d'une autre religion.
Bien
donc les aumôniers catholiques se mobilisent pour chacun des détenus.
Et je rajouterai aussi avec les équipes Saint-Vincent, voilà, le relais et le petit relais à Lannemezan et comment ça s'appelle, l'équipe de
Tarbes,
le petit abri.
Au total, pardon, ça fait combien de détenus? Parce qu'on a dit tout à l'heure
270.
Oui.
270. Donc c'est ça, c'est un partenariat des aumôneries catholiques avec l'association Saint-Vincent, les équipes Saint-Vincent. Pourquoi? Parce que les équipes Saint-Vincent ont les lieux d'accueil des familles dans les deux lieux.
Oui.
Et du coup, elles sont partenaires aussi avec nous sur cette opération que nous coordonnons, que nous menons vraiment complètement ensemble. Donc,
qu'est-ce qu'il y a dans les colis?
Alors, dans les colis, il y a des friandises, il y a quelques produits d'hygiène, un peu de café, un calendrier. Un petit message pour juste dire que c'est nous, mais pas de message à connotation religieuse, parce que comme c'est distribué à tout le monde, on veut pas que cette opération soit une opération qui pourrait être récupérée. Voilà.
C'est juste un message fraternel.
C'est juste un message fraternel. C'est un message d'humanité. C'est un message de la gratuité, de l'amour de Dieu pour tous. Voilà.
Le coût d'un colis pour qu'on se rende compte de vos besoins et qu'on puisse vous aider à peu près une.
17 euros.
17 près. Euros par
17,
colis.
Oui. 17.
Donc, tous ceux qui nous écoutent là et toutes les personnes qui le souhaitent peuvent vous faire un don pour que vous puissiez remplir ces colis pour chacun des détenus.
Oui, alors il y a des gens qui sont des donateurs habituels et puis nous allons aussi dans les paroisses alors pour faire appel à la générosité, mais pas que, nous distribuons un petit bulletin que nous coécrivons Tarbes et Lannemezan avec deux faces, où nous partageons ce que nous vivons avec eux, parce que pour nous c'est aussi le moyen, à l'occasion de cette opération des colis de Noël, de partager largement ce que nous vivons avec les personnes détenues.
On dira à la fin les modalités, où est-ce qu'il faut envoyer le don. J'ai une dernière question et puis on arrive déjà à la fin de cette émission. Alors au-delà de cette opération des colis de Noël, qu'est-ce que vous attendez de nous qui sommes à l'extérieur des prisons? Qu'est-ce que nous, depuis l'extérieur, on peut faire pour les personnes détenues que vous croisez, que vous rencontrez?
Alors moi je dirais d'abord prier, parce que je pense que la prière, ils en ont besoin, voilà, c'est ce côté, et d'être, voilà, de nous aider, voilà, on parle, mais c'est vrai que les colis de Noël, on a besoin de ces colis qui soient financiers, voilà, que ça soit, voilà, qu'on offre quelque chose de conséquent. On a besoin aussi de matériel, je vais dire, de chapelet, parce qu'ils sont de gros consommateurs de chapelet. Donc c'est vrai que
Elisabeth Lemire opine du chef. Oui, c'est vrai.
C'est un budget, voilà. Il faut savoir sur les chapelets, voilà. Les bibles, voilà.
La Bible, des chapelets, des bibles, des colis de Noël et des prières.
Et pas que.
Et pas que.
Alors moi j'aimerais bien. Alors oui. Pas de missel par contre.
Non.
Pas que, parce que j'ai envie aussi de lancer deux autres appels. Un premier, c'est que il y a un gros problème en prison, dans toutes les prisons de France, c'est le manque de travail. Et du coup, je me dis, il faut qu'on ose dire aussi autour de nous, si nous connaissons des chefs d'entreprise qui ont une petite activité qui pourrait être réalisée en prison, toutes les établissements pénitentiaires cherchent des partenaires. Des partenaires pour une activité en prison. Et donc voilà. Donc,
et ça, par exemple, quel genre d'activité?
À Lannemezan, il y a beaucoup d'ateliers. D'accord. À Tarbes, c'est beaucoup plus petit, mais quand même. Alors, ça peut être des choses très simples. Je sais que à un moment, c'était du pliage de chemises en carton. D'autres ont fabriqué des cadres de ruches.
En fait, faut les occuper. Faut pas qu'ils soient désœuvrés. C'est ça.
Bah, d'une part, et puis d'abord, c'est garant de la réinsertion. Ensuite, c'est se dire je suis un homme debout quand je travaille. Ensuite, c'est se dire.
Il y a toute la dignité humaine qui passe par le
bien
travail.
Bien sûr. Quoi. Ensuite, c'est un peu de revenus qui peut permettre, un, de subventionner, de faire face à des besoins en prison, mais aussi de payer des parties civiles, mais aussi peut-être de poser un geste envers sa famille, téléphoner davantage, comme ça. Enfin, c'est énorme l'enjeu du travail en prison. Et aujourd'hui, toute l'administration pénitentiaire réfléchit à ça. Deuxième point, c'est aussi se dire que nous, nous sommes prêtes, et en général, on peut le faire aussi ensemble, à faire de l'information dans des groupes, dans des paroisses, on a une petite vidéo, à témoigner de ce que nous vivons. Parce que ça, c'est important, c'est aussi le regard que nous portons sur les personnes qui ont quelqu'un de leur famille en prison, ou des gens qui sont sortis de prison. Parce que la conversion du cœur envers des personnes qui sont en prison ou qui en sortent, c'est pour chacun de nous. Et nous voyons ça dans tous les médias. On nous parle de la prison avec un certain regard dans les médias, mais nous, on peut aussi témoigner de ce qu'on vit en prison. Et ça, que les paroisses n'hésitent pas à faire appel à nous ou des groupes connus, parce que c'est toujours des très bons moments.
Merci beaucoup pour votre témoignage rempli de miséricorde et d'espérance. Comme promis, on indique un contact pour vous aider pour l'opération des colonies de Noël. En tous les cas, les informations seront indiquées sur le site du diocèse catholique65.fr et il suffit d'envoyer son soutien, son don par chèque à l'adresse qui sera donc indiquée sur le site du diocèse et sur l'application Au Clocher. Merci beaucoup à toutes les deux, Christine Sarry et Elisabeth Lemierre. Belle mission et bon jubilé avec les personnes détenues, donc à Lannemezan et à Tarbes. Vraiment, transmettez-leur. Peut-être qu'ils nous écoutent, comme vous l'avez dit, mais en tous les cas, transmettez-leur tous nos voeux pour bien passer ce jubilé de l'espérance.
Merci.
Radio Présence sur le COS 106.5. Les podcasts de Radio Présence.
Podcasts de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Balade en pays de Lourdes. En partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
Si vous avez envie de vous évader sans quitter notre région, eh bien on vous emmène en balade avec Laurent de l'Office de Tourisme de Lourdes. Bonjour Laurent.
Bonjour Gilles.
Direction les chemins de Saint-Jacques avec le GRR 101. Un nouveau chemin de Saint-Jacques a été créé. Ce chemin prend son départ à Nogaro.
Oui, exactement. Donc aujourd'hui, cap sur le GRR 101, le chemin de Lourdes qui relie Nogaro à Lourdes. C'est ce que je voulais aborder avec vous dans cette chronique.
142 kilomètres entre Nogaro et Lourdes, et dans cette chronique on va s'intéresser aux 18 derniers kilomètres, c'est entre le village d'Azerex et Lourdes.
Exactement, donc ce circuit effectivement qui relie Nogaro à Lourdes, alors c'est un circuit qui en fait relie la voie du Puy, la voie d'Arles et celle du Piémont, donc le GR 78 du Piémont qu'on connaît bien. Et il y a un travail de fait effectivement pour connecter le Gers aux Hautes-Pyrénées. Des hébergements ont été rajoutés à Saint-Lézé et à Azerex pour les randonneurs et les pèlerins. Et effectivement, on va zoomer un peu sur cette partie Azerex-Lourdes, voilà, qui est la dernière partie, les 18 derniers kilomètres, pardon.
Alors, justement, sur ce parcours, qu'est-ce qu'on va pouvoir admirer, j'imagine, la chaîne des Pyrénées ?
Complètement, voilà. C'est du coup, en fait, on quitte la plaine argileuse d'Azerex et on a une montée progressive vers Lourdes, donc ça se fait assez en douceur, hein. C'est abordable pour à peu près tout le monde, c'est pas extrêmement technique. Et on va traverser des plaines, des bois, les vallées, et surtout avec cette vue, en fait, fabuleuse sur la chaîne des Pyrénées. Donc ça, c'est la partie la plus belle. Et on passera par Azerex, par Rossin, Bartrès et pour arriver au final à Lourdes.
Pour arriver à Lourdes, entre Bartrès et Lourdes, c'est probablement le même chemin qu'a emprunté Bernadette, le chemin de Bernadette.
Tout à fait, c'est celui-là, c'est vraiment Bartrès-Lourdes, c'est l'étape qui marie la spiritualité avec la randonnée. Voilà, ça c'est parfait pour ceux qui sont en quête de sens et d'émotion. C'est effectivement 3-4 kilomètres, voilà, mais c'est le même chemin que les gens utilisent dans l'autre sens pour faire Lourdes-Bartrès, pour aller là où vivait Bernadette quand elle était à Bartrès.
Et lorsqu'on arrive à Lourdes, où peut-on se faire tamponner la crédentiale ?
Alors, il y a deux lieux. Le premier lieu, en fait, au sanctuaire, au centre information. Là, on peut se faire, effectivement, apposer le crédentiel sur son petit passeport. Et sinon, il y a aussi une halte jacquaire, en fait, dans le centre-ville de Lourdes, entre l'office de tourisme, en fait, derrière l'office de tourisme, pas très loin du marché, dans une petite ruelle, voilà, dont j'oublie le nom, mais c'est pas très loin du marché.
Voilà, on a parlé du GR 101, donc ce nouveau chemin de Saint-Jacques entre Nogaro et Lourdes, hein, qui a été créé tout récemment. Alors, on n'est pas obligé d'être en pèlerin de Saint-Jacques, on peut également se balader en famille le week-end. Hein.
C'est ça, c'est un 18 km qui sont... Alors, ça demande quand même un peu de conditions physiques, mais c'est pas excessif. Il suffit de partir avec un sac à dos, de quoi se rafraîchir, de l'eau, un petit pique-nique, et voilà. Ça a été inauguré récemment, le samedi 21 juin 2025. Voilà, avec une arrivée au château fort, musée pyrénéen de Lourdes. Mais oui, ça peut être une jolie balade à faire en couple, en famille ou même tout seul.
Avec Laurent, on vous a amené donc sur les chemins de notre territoire autour de Lourdes. Un grand merci, Laurent de l'Office de Tourisme. Et on se dit à une prochaine fois sur Radio Présence pour une nouvelle chronique balade en pays de Lourdes.
Merci Gilles et à bientôt à Lourdes.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence. Il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
Tu ma belle qu'un jour fatigué j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour. Un jour je m'en vais.
Radio Présence à Luchon, 94 FM.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Agir avec foi et prophétie en faveur du climat, les mots incisifs du pape Léon.